d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, c'est avec l'équipe AC1920. Exceptionnellement en direct aujourd'hui par rapport aux autres équipes qui n'étaient pas là dans cette journée de. Voilà, donc eux ils ont fait le pont, pas nous, donc nous sommes là. Comme quoi les chômeurs peuvent travailler aussi, il n'y a pas de souci, bien que nous travaillons également à côté. Ce soir, une émission haut en couleur avec Ludo au micro. Bonjour Ludo. Christophe.
Bonsoir à toutes et à toutes.
Claude à la technique, bien sûr, et Gilles également pour vous servir. Nous parlerons ce soir des chiffres du chômage, paradoxe et controverse, puisqu'apparemment, il y aura une augmentation des CDI ce dernier trimestre, et pourtant, une augmentation également de demandeurs d'emploi. Également, nous parlerons de savoir s'il faut traverser la rue pour trouver un emploi. On parlera également des travailleurs en activité réduite, de la théorie sur les inégalités, donc de la redistribution du revenu mondial, évidemment de tout ce qui concerne la dégressivité pour les cadres dans le cadre du chômage, hein, puisqu'apparemment c'est bien dans l'actualité aujourd'hui, et tous les sujets qui bien sûr concernent cette émission à aux cassettes. Eh bien, nous allons reprendre cette émission en parlant un peu moins vite, pour le coup. les chiffres du chômage, Ludo, apparemment, selon ce dernier trimestre, a priori, il y aurait donc des choses qui seraient un peu controversées. Il y aurait une augmentation des CDI, en même temps une augmentation des chômeurs.
Oui, en fait, les statistiques du chômage deviennent difficiles à comprendre. On en avait parlé dans une précédente émission, puisqu'en fait, les sources du chômage sont contradictoires, en fait. Donc,
contradictoires dans quel sens?
Comme vous le savez, il y a plein de mesures du chômage différentes. Il y a celle de la NPE, il y a celle de l'INSEE, il y a celle de l'UNEDIC. L'UNEDIC fait des prévisions. Il y a aussi le nombre de postes créés et en l'occurrence le nombre de contrats passés. Donc ça fait beaucoup d'indicateurs. Donc aux dernières nouvelles, Pôle emploi continue à publier ses statistiques. Aux dernières nouvelles, le chômage a légèrement augmenté au cours du troisième trimestre. Bon, tout le monde s'attendait un peu à ça, parce qu'il y a un ralentissement de la croissance. Alors, très légèrement, hein. Alors que sur un an, en tendance, il baisse, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que le fait que ça augmente, on a surtout une augmentation du chômage de longue durée, en fait, hein.
Donc plus d'un an.
De plus d'un an. Donc au total, on a 3,45 millions de personnes qui sont inscrits donc à Pôle emploi
en catégorie A.
En catégorie A, voilà. La hausse est est de 0,5% au troisième trimestre. C'est très modéré, ça fait 16 000 personnes, hein.
C'est pas rien.
Et voilà, alors les chômeurs de longue durée, c'est pas rien, 16 000 personnes tout compris, hein, y compris les dom-toms. Par rapport aux 3 millions, évidemment, c'est les chômeurs de longue durée qui payent le plus cher, hein, puisque là, il a bondi sur un an à 6,4%. Donc ça commence à faire beaucoup, hein. Il a augmenté au dernier trimestre de 1,1%.
T'es en train de nous dire que la notion d'employabilité et puis d'âge est vraiment un frein à une insertion durable.
Eh ben j'y viens, figure-toi, j'y viens. Parce que si on regarde, hein, le nombre en catégorie A, donc de chômeurs total, lui a reculé de 1% sur un an, alors que les chômeurs de longue durée ont augmenté de 6%.
Ah oui. Voilà. D'accord.
Alors ça c'est côté Pôle emploi. Mais le problème, c'est que côté de l'ACOS, c'est l'organisme qui gère les cotisations sociales.
C'est ça.
La sécurité, les cotisations sociales qui viennent collectrices des cotisations sociales. Et elle a une vue, donc c'est elle qui voit les contrats qui sont passés.
Oui. Hein,
les contrats signés en France. Et là, au cours du troisième trimestre, donc les embauches en CDI sont envolés à un record historique, et plus qu'en CDD, hein, au troisième trimestre, il y a une augmentation de 2,7%, donc ce qui est un record historique. Donc c'est quand même très étonnant, puisque
Excuse-moi, tu as le chiffre de combien ça correspond en termes de CDI?
Alors,
10 000 poches,
je l'ai. Ah non, le chiffre en valeur absolue, je ne l'ai pas. En revanche, effectivement, alors que d'habitude les CDD étaient majoritaires, hein, là il semblerait qu'il y ait une stagnation en fait du recrutement CDD. Donc c'est bien le retour à un recrutement en CDI, ou la progression du recrutement en CDI, qui bien sûr reste minoritaire par rapport à la part de CDI, bien entendu.
Et c'est le CDI modifié, c'est-à-dire avec la nouvelle formule où on peut licencier quand on veut les salariés.
Alors là, les statistiques ne vont pas aussi loin dans les détails, puisque ça reste
CDI. Je ne sais pas si encore je crois que les décrets d'application de la loi, des lois et conneries sont effectivement sortis, mais je ne sais pas si c'est encore appliqué réellement.
D'accord,
tout à fait. Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'on peut regarder aussi la création des emplois. Ça se mesure. Donc, il semblerait que sur l'année 2018, on arriverait à ouvrir 183 000 nouveaux postes cette année, ce qui est un peu en recul par rapport à 2017, du fait du tassement de la croissance, et que si on regarde les statistiques de l'INSEE, le troisième indicateur, on devrait passer en dessous des 9%, mais ça reste au conditionnel puisqu'on attend la publication du troisième trimestre et ensuite du quatrième. Donc on n'en sait rien. Là, on est à 9,1 pour vous donner une idée. Voilà. Et puis, effectivement, on a le son de cloche des entreprises qui ont du mal à trouver des salariés. Bon, ça, c'est une vieille rengaine, hein. Mais effectivement, il semblerait que ce soit, selon l'indicateur, alors c'est un indicateur, bon, on peut discuter, hein. C'est BPI France. Vous savez, ces indicateurs de recherche, c'est toujours visiblement, pas du grand fiable, mais en tout cas, ça n'a jamais été aussi prégnant qu'en 2002. Donc, bien un signe de reprise d'activité, enfin de reprise, restons prudents,
léger,
enfin
d'embauche, oui,
d'embauche, de besoin d'embauche en tout cas, et un chômage qui continue, enfin qui stagne dans le meilleur des cas, et qui augmente concernant les parties les plus fragiles de la population.
Ça reste un chômage de masse quand même, pour le coup.
Ah pour le coup, oui, ça on peut le dire.
Il n'y a pas d'allusion.
Et donc c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il faut parler des interprétations.
Oui, ouais, bien sûr.
C'est ça.
Mais par rapport à l'interprétation, je m'excuse de faire un dialogue avec toi. Moi, il y a deux choses que je verrais. C'est d'abord les primo-accédants diplômés qui ne passent pas par la case chômage, par la case d'inscription Pôle emploi.
Absolument.
Et la deuxième chose, qui est très simple, qui est liée à la société en réseau et numérique, c'est le marché caché, quoi, qui a de plus en plus d'ampleur, tout simplement.
Oui, mais enfin, pourquoi le chômage augmente?
Oui.
C'est ça aussi.
On peut se poser la question, hein. Ouais.
Alors, du coup, non, parce que c'est une vraie question. Alors, en fait, c'est un phénomène, c'est des hypothèses, tout ça, bien sûr, finalement, qui est bien connu. C'est que la crise il est possible, hein, que la crise est amenée à une certaine population à décrocher. Décrocher du marché du travail, c'est-à-dire en fait ne plus s'inscrire. Si elle n'est pas indemnisée, pourquoi s'inscrire à Pôle emploi, par exemple, ne plus se déclarer chômeur ou ne plus chercher. Et donc ça, on le voit en fait dans l'explosion de ce qu'on appelle le halo du chômage, qui est en fait une mesure,
une sorte de nuage, effectivement,
qui est en dessous en fait des chômeurs, donc qui ne sont pas comptés comme des chômeurs, de gens qui aimeraient travailler mais qui n'ont pas la capacité, qui ne font pas de démarches, et sont bien sûr, hein, le halo a quand même méchamment progressé pendant la crise, et on a vu qu'il commence à baisser seulement en 2016, qui commençait progressivement en 2017, qui commençait à baisser, hein. Il est passé, pour vous dire, il était en dessous 1 200 000 personnes. Il est passé à 1 500 000, vous voyez, entre 2003 et donc ça fait un bout. Et là, il commence légèrement à baisser. D'une part, il y a effectivement les jeunes actifs qui déboulent sur le marché d'emploi et qui éventuellement ne passeraient pas par la case chômage. Mais il y a aussi un problème, comme le disait Christophe, d'employabilité, c'est-à-dire de retour massif de gens sur le marché du travail parce que l'embauche pourrait aller mieux. Mais en même temps, l'embauche se fait probablement dans des secteurs qui sont qualifiés. Non, qui sont très qualifiés, en fait, très probablement pour les CDI.
Ah oui.
Prends des CDI, tu pour une fois, c'est
donc
plus
c'est les, grandes, les gens de grandes écoles qui trouvent du travail.
Alors, grandes écoles n'ont aucun problème à trouver du travail, mais même des gens bien diplômés dans le secteur de l'informatique. Ouais. Et donc,
technicien voilà. supérieur.
Est-ce que ça indique ça quand même? C'est que malgré toutes les sophistications de nanana, c'est qu'au fond, on a encore du mal à saisir la réalité des gens qui font le va-et-vient entre le chômage et l'inactivité. C'est-à-dire entre des gens qui, à un moment donné, finalement, se rangent dans la case inactif. Et puis, à un autre moment, vont revenir. Et la seule chose qu'on sait, par contre, c'est que le taux d'activité, alors, sans être
technique... Combien d'actifs en France? C'est 25% à peu près?
En fait, alors attention, le taux d'actifs, c'est les gens qui sont occupés en emploi, mais ramenés à la population active, et puis il y a les gens qui se déclarent qui voudraient être, qui sont à la fois actifs plus les chômeurs.
C'est ça.
C'est à la fois le taux d'activité et le taux d'actifs. Donc, il n'a jamais été aussi élevé historiquement. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui finalement, par besoin d'autonomie, ont besoin de trouver un travail. Et des gens qui n'en trouvent pas, en fait. Vous voyez? Donc, il y a à la fois une suroccupation des postes, mais il y a aussi une partie des gens qui se déclare dans l'incapacité de travailler. Donc tout ça pour dire quoi? C'est qu'il y a probablement ce qu'on dit depuis très longtemps, c'est que chaque crise en fait décroche une partie des gens du marché du travail.
Tout à fait.
Qui pour retrouver à nouveau un travail stable et décent n'en a pas les moyens lorsqu'il y a une reprise, parce qu'elle est déqualifiée sur le marché du travail. Ou parce qu'elle n'a pas les qualifications, ou parce que la durée est trop longue. Et malgré tout, on est statistiquement dans une permanence, on reste toujours dans un chômage de masse, quoi qu'en disent nos brillantes élites qui voudraient nous faire passer un chômage à 7% pour un chômage, frictionnel. C'est-à-dire chômage normal, quoi.
Alors, merci Ludo. Alors moi, j'ai une question quand même, parce que je me dis que si ces gens-là ont réussi à trouver des CDI, c'est qu'ils ont peut-être appris à traverser la rue, Christophe. Est-ce qu'on peut trouver du travail en traversant la rue?
Alors ça, c'est la grande déclaration de monsieur le président de la start-up France. Donc, sauf qu'il y a un économiste, Eric Meyer, qui lui a regardé de près, il n'y a pas autant d'offres d'emploi non pourvues que le pense le président. Alors, je rappelle le débat de base. Un bonjour, monsieur Macron, qui est dans sa réalité de président. Je traverse la rue et je vous trouve un travail. Il avait adressé donc cette phrase le 7 septembre dernier à un jeune horticulteur diplômé. Et puis donc, en faisant ça, monsieur le président a bien sûr relancé, ça c'est une ancienne des libéraux, les emplois non pourvus. C'est-à-dire qu'en fait, la coexistence de ces derniers, avec un chômage de masse, sera la preuve d'un dysfonctionnement en fait à la fois du marché du travail et puis aussi du modèle social français. Donc on va le réformer, donc on va enlever des acquis sociaux aux gens, comme ça fera démarrer l'économie. Ça c'est bon, c'est le credo idéologique libéral. Sauf que et donc pour expliquer ça, on va nous expliquer la trop forte rigidité du marché du travail avec des lois de précarisation des individus comme les lois M. Khomri sur lesquelles on s'est battu. Seulement à regarder de plus près, il y a bien d'autres choses qui expliquent cela. D'abord, c'est pas une anomalie qu'en France il y ait 300 000 offres d'emploi non pourvues. En fait, c'est un trompe-l'œil. Pourquoi? Parce que premièrement, il faut savoir que d'abord qu'en 2017, sur les 25 millions de contrats qui ont été signés en France, on vient au premier élément que développait Ludovic, il y en a 85% qui étaient des CDD et que 15% de CDI. Donc oui, c'est la reprise économique.
Donc c'est une transformation des CDD en CDI.
Absolument. Donc plus des deux tiers avaient une durée de moins d'un mois. C'est des missions ponctuelles, c'est de l'intérim, tout ça, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y en a donc ces 3,2 millions d'offres qui ont été hésitées par Pôle Emploi. Il y a 90% d'entre elles qui ont été pourvues, qui ont débouché sur un recrutement et 300 000 restants non pourvus. Donc, on va se dire, les chômeurs sont des feignants, ils refusent des offres d'emploi, sachant que on a parmi les chômeurs qui recherchent activement un emploi à temps complet, si je puis dire, on a 3 millions et demi de personnes. Cherchez l'erreur, 300 000 offres, personne ne peut travailler à temps plein dans ce pays. Sauf que la réalité, tu sais quoi? C'est que sur ces 300 000 offres, il y en a près d'un tiers qui ont été annulés par l'employeur, qui envisageait de recruter pour faire face à un accroissement de son activité. Donc on arrive à 200 000. Hein, qui n'a pas fait un moment eu lieu. C'est-à-dire que tu prévois dans une entreprise et puis finalement tu te rends compte que non. Puis il y en a plus de 50 000 offres qui concernent en fait des recrutements en cours au moment de l'enquête. C'est-à-dire qu'on n'a pas terminé la procédure de recrutement. On arrive à 150 000. Ainsi, la moitié de ces offres non pourvues ne seraient pas en fait le reflet d'un dysfonctionnement, hein, contrairement à ce qu'on croit du marché du travail, mais au contraire d'un fonctionnement normal. Oui, c'est normal que des entreprises prévoient des besoins, balancent des offres potentielles, et puis se rendent compte du fait de leur carte de commande que...
Ils peuvent pas les... D'accord.
Et donc, ce qui se passe, c'est que en réalité, on a près de 150 000 offres d'emploi réellement non pourvues, ce qui est une goutte d'eau par rapport à
ce qui était aux prévisions,
c'est-à-dire que c'est moins 5%. Donc tout ça pour dire que et en fait c'est tout à fait normal, c'est la logique, c'est pas un dysfonctionnement, c'est la logique du marché du travail et son fonctionnement, c'est-à-dire prise de commande, emploi prévisionnel, candidature émise, candidature en cours ou candidature retirée, tout simplement. Donc ça en fait et en fait sur ces 150 000, la raison effective, c'est le manque d'attractivité du poste. Et aussi l'inexpérience des personnes recrutées, hein. Et en général, ça, c'est vraiment sur des missions ponctuelles et très, 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 très qualifiées, en fait, et qui demandent une véritable technicité. Hein. Donc, en fait, donc la conclusion, c'est quoi? C'est que contrairement à ce qu'on entend les médias traditionnels, hein, le fait qu'on ne pourvoie pas des emplois, c'est absolument pas un dysfonctionnement du code du travail ou du cadre juridique. Du monde du travail ou un dysfonctionnement du marché de l'emploi, c'est tout à fait normal.
D'accord, voilà. Très bien.
CQFD.
Merci Christophe. On va s'écouter une petite chanson, ensuite on reprend la parole. Merci.
Ça y est, c'est fini. Ce matin, l'usine était fermée.
Eh oui, les promesses partent en fumée. C'est une très belle chanson militante, très jolie. Donc, on reprend cette émission pour, bien sûr, ces modes d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM avec Ludo, Christophe, Gilles au micro et Claude à la technique. On va reprendre cette émission pour parler, bien sûr, des travailleurs en activité réduite, donc des allocataires qui sont au chômage, hein, évidemment, et qui sont 42% à travailler pour boucler leur fin de mois, Ludo.
Absolument. Alors là, on parle évidemment des chômeurs qui travaillent un peu. Voilà, donc ils ne sont pas comptés chômeurs, en fait.
Ils ne sont pas comptés chômeurs, c'est ouais, ça, ouais, c'est ouais. L'idée. Ouais.
Mais bon, on s'en moque parce que les chômeurs sont des fainéants par principe. Et donc, c'est pour en avoir le cœur net que l'UNEDIC, en fait, la branche UNEDIC de Pôle emploi, parce que c'est un seul et même truc, s'est penchée, a fait une étude. Sympa, pas l'argent d'une UNEDIC sert à quelque chose. Donc à faire une étude sur ces allocataires qui travaillaient. Qu'une bonne idée, qu'elle est bonne.
Enfin.
Tu m'étonnes. Et donc, oh surprise, à ton avis, combien de pourcents de chômeurs indemnisés travaillent?
Je pense que c'est 42%, tu m'en as parlé juste avant.
Ouais, oh, tu me casses mes effets. Donc... L'air de rien, hein, oui, ça fait un peu moins de la moitié des gens, c'est énorme.
C'est énorme.
Oui. Et alors, du coup, ça représente combien?
Je ne sais pas.
Je comprends, c'est 800 000 personnes.
Ah oui.
Alors
oui,
attention, hein, 800 000 personnes indemnisées qui travaillent, à peu près 860 000, plus 800 000 personnes non indemnisées, mais inscrites au chômage, qui travaillent aussi. Donc,
d'accord.
Donc un total d'un million.
600 000.
70 000. Non, mais c'est beaucoup. Ce ton est badin, vous l'avez compris.
Oui, bien sûr.
Alors, on pourrait faire un petit calcul pour s'amuser et ramener ça, par exemple, au nombre de chômeurs indemnisés, la proportion, tout ça. Et donc, on pourra en déduire, mais je ne sais pas si tu vaux quelque chose, hein, comme ça, que 1/5 des personnes indemnisées travaillent.
Oui, c'est 20%.
Un peu des chômeurs travaillent. Mmh. Et 1/3 des personnes indemnisées travaillent. Bon, ça reste à vérifier, mais enfin, ça donne une proportion de l'idée du chômeur fainéant.
Oui, absolument.
Que se font nos brillantes élites, et notamment notre roi Macron Ier. Alors, cette étude est très intéressante, je le dis tout de suite, si vous pouvez vous la procurer. puisque on y apprend que 28% des personnes qui travaillent en étant inscrits au chômage ont un CDD ou de l'intérim. Ça fait 31 jours.
31 jours, oui. Pas mal. Ouais.
Au moins. Ouais. 42% ont une activité en CDD de plus de 31 jours. C'est quand même des travailleurs, hein, les gars. Et 20% sont en CDI.
Ah oui.
Mais ils sont quand même inscrits parce que,
ouais, parce que c'est des CDI à temps partiel.
Alors à temps partiel ou à temps complet. T'as quelques temps complets quand même. Mais effectivement, c'est plutôt à temps partiel, tu as raison. Et dans la majorité des cas, il s'agit d'une réembauche. C'est-à-dire que c'est des petits bouts.
C'est le mécanisme de l'intérim.
Voilà. Mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tout est possible. Donc t'as 60% qui ont déjà travaillé pour leur dernier employeur par le passé. Donc 48% a eu au moins 4 contrats avant avec cet employeur.
Ah oui.
Oui, c'est ça. On parle des permittants. On les appelle des permittants. Et la moitié d'entre eux ne se sentaient pas libres de refuser leur emploi sous peine de dégrader la relation avec leur employeur. Donc c'est pour dire qu'ils tiennent un petit peu quand même à leur job et ils tiennent un peu à travailler. Et l'autre aspect intéressant, c'est les motivations. Parce que je persiste. Moi, vous savez, on a beau me présenter des chiffres. Pour moi, un chômeur est quand même un branleur. Donc, je cherche ces motivations
profondes. Sur le trône jupitérien. C'est
pardon?
Ça? Un branleur sur le trône jupitérien.
Sur le trône, selon le trône du Jupiter. Ouais, sur le trône jupitérien, oui. Et donc, quelle est la motivation première? Toute la première motivation du chômeur qui travaille.
Boucler ses fins de mois, non? Payer ses factures.
60% des gens, effectivement, pensent à gagner pour l'argent. Mais 60%, ça fait pas 100%.
Non, effectivement.
Et donc ensuite?
Et les 40% qui restent, c'est quoi alors, pour le coup?
Eh ben, c'est augmenter les chances d'être embauché par la suite.
Ouais.
Et se faire connaître, oui, améliorer son CV.
Ah ouais, ouais.
40%.
Ah ouais, quand même.
Et mais ces gens ne veulent pas travailler, hein. Vous l'avez bien noté.
Non, non.
Pour 30%, en deuxième motivation, parce que c'est des trucs non exclusifs, hein, c'est pour ça. Pour 30% d'entre eux, quelle est la troisième motivation? C'est une forme de quiz.
Payer l'université des rejetons, non?
Ben, je crois que là, ils voient un peu loin, quand même. Et ben, c'est pour se sentir utile.
D'accord.
Voilà, 13% avoir des contacts avec les gens, voilà, etc. Et le reste, voilà, prolonger la durée d'indemnisation. Prolonger la durée d'indemnisation.
Ah,
combien de pourcents?
Même pas 10.
5.
Ah oui.
C'est-à-dire que beaucoup de chômeurs ne connaissent pas leurs droits et ne savent pas qu'en fait, c'est ce que montre l'étude, le fait de retravailler va prolonger leurs droits. Ok. Donc voilà, donc une étude fort intéressante où on y apprend effectivement que une majorité des gens indemnisés sont en dessous du seuil de pauvreté. Hein, donc c'est des ménages qui gagnent. Alors on parle de ménages, hein, donc 1000 euros par mois pour un ménage. C'est-à-dire une personne ayant une charge, ou une ou plusieurs personnes ayant une charge de logement, de voilà. Et donc évidemment le niveau de vie est nettement 40% de ces ménages donc sont en dessous du seuil de pauvreté et 9 sont 10 sur 10 sont issus du ménage dont le niveau de vie est inférieur au niveau de médian, c'est-à-dire 1 700 euros. Il y a quand même il y a quand même des gens qui parviennent plus ou moins à s'en sortir. Et 45% d'entre eux cumulent en effet salaire et allocation chômage avec un revenu moyen de 1 480 euros. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Donc les indemnisés eux disposent d'un revenu de 830 euros en moyenne issus de leur activité et 490 euros issus de leur allocation chômage, au total 1 320 euros. Voilà. Et les femmes sont légèrement surreprésentées dans cette catégorie. Donc effectivement, grosso modo, hein, travailler pendant qu'on est au chômage, c'est mieux, ça c'est clair.
Bien sûr.
Et c'est vrai que on peut s'interroger sur la future réforme de monsieur Macron. Parce que je vous rappelle que l'UNEDIC voudrait réformer des effets pervers de cumul d'activités d'emploi qui, selon leur document, seraient défavorables aux chômeurs, soi-disant. Mais enfin, comme ils veulent en même temps baisser les droits et la durée des droits, eh bien, on va voir s'ils touchent effectivement au cumul d'activités d'emploi, puisque tout chômeur est un profiteur du système.
Tout à fait.
Bien.
C'est ce qu'on y a pensé. On y a pensé.
Ça, c'est
alors,
dit.
Voilà. Mm-hmm. Merci, Ludo. Alors, on va passer. Si on peut passer sur la théorie, apparemment, il y a une théorie sur les inégalités, Christophe, sur une possibilité de redistribution du revenu mondial. Alors, qu'est-ce que c'est ça?
C'est la théorie de la courbe de l'éléphant.
Ah.
Qu'est-ce que c'est?
Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, dis-moi tout.
En fait, excusez-moi. La théorie de la courbe de l'éléphant, c'est une théorie économique qui a été créée par Branko Milanović. En fait, c'est un livre qui est paru en 2016 où Branko Milanović, qui est un économiste assez connu, et un de ses collègues, ont analysé la redistribution du revenu mondial, hein, du capitalisme, du fruit du travail, hein, et puis du développement de la finance. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que la finance, elle a commencé à s'inscrire dans l'économie réelle avec des fonds d'investissement, tout ça, au début des années 80, mais ça s'est véritablement développé au moment de ce qu'on appelait la nouvelle économie. Hein, c'est-à-dire tout ce qui est nouvelle technologie. C'est-à-dire. Donc, 95-2016, tu vois sur 20 ans ce que ça peut faire, ce genre de choses. Et donc, puisque tu as la finance d'un côté et l'économie réelle de l'autre, et donc des travailleurs et des salariés. Alors, qu'est-ce que c'est que cette courbe de l'éléphant ? En fait, c'est une courbe qui... La démarche de ces économistes, parce que là, je vais expliquer des concepts qui sont un peu complexes, c'est d'analyser l'inégalité à l'échelle mondiale en comparant l'ensemble des revenus de la planète. Donc, par exemple, ceux des pauvres américains aux riches chinois. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Hein. Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité sociale ?
Tout à fait.
Et au niveau de vie, mode de vie, tout ça. C'est super complexe parce qu'en fait tu dois compiler des enquêtes nationales avec chacun, donc
chaque pays,
l'INSEE,
ouais.
Chaque pays, chaque organisme de l'INSEE, et sachant que son collègue Christophe Lackner a d'ailleurs plaidé pour un modèle international, hein, pour qu'on puisse analyser les choses liées aux revenus. Et bon, en fait, et puis derrière ça, puisque je te parlais des nouvelles économies, et puis d'un marché global, en fait. Hein, c'est quoi ? Quelles sont les transformations économiques qui résultent de la mondialisation ? Ça, c'est une bonne question. Hein. Parce qu'on nous parle de la mondialisation comme étant un projet de société marchande d'exception. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, en fait, il s'avère que l'inégalité globale reste élevée et due essentiellement aux écarts entre pays. C'est-à-dire que, en fait, ce qui mesure la pauvreté, c'est le fait d'où on est né.
Bien sûr. C'est sûr que si tu es né à Manille ou en France, c'est pas la même chose.
Et hein, exactement. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, il y a ce qu'on appelle l'indice de Gini. Alors, c'est quoi l'indice de Gini ? Si tu veux, c'est un indice de comparer un mode de vie, par exemple, d'un Brésilien sur une échelle de 1 avec le même type de salaire revu et corrigé, par exemple, en Allemagne. Et c'est là où tu vas avoir des écarts plus ou moins importants.
Alors, excuse-moi, ce que je veux dire, c'est par exemple que quelqu'un qui a le RSA en France pourrait être considéré comme un riche.
L'indice de Gini, c'est une mesure d'inégalité des salaires dans le pays, mais un indicateur d'accord. qui permet de comparer de pays okay. à pays.
De pays à pays. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, t'es un technicien supérieur en télécommunication au Brésil, hein, toi, avec une convention collective ou enfin l'équivalent au niveau juridique, mm-hmm. t'as tendance à ce que tu gagnes ça. Tu vas avoir tel mode de vie. Aux États-Unis, même boîte, tu vas avoir d'autres droits, machin. Et en fait, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter comme valeur ? C'est-à-dire comme mode de vie, comme capacité d'endettement, comme capacité d'achat, etc., etc. Comme niveau d'éducation globale, tu vois. C'est ce qu'on appelle l'indice Gini, si je ne me trompe pas, Ludovic.
Oui, d'accord.
C'est ça. Et en fait, ce qui s'avère, c'est que... l'inégalité entre les pays, effectivement, du fait des échanges commerciaux, elle a bien diminué, hein, du fait de la mondialisation et de l'essor notamment économique, mais que d'une partie du monde. Devine ce que c'est ? C'est le Sud, et puis c'est évidemment l'Asie, hein, puisque ce sont eux qui se sont inscrits dans cette logique industrielle de mondialisation en baissant les coûts et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que eh ben, égaliser les revenus entre pays sans toucher à l'inégalité au sein même du pays, hein, c'est faire ce qu'on appelle la plus-value sociale par le haut, ça serait beaucoup plus efficace, c'est-à-dire que ça réduirait vraiment les inégalités sociales et économiques dans le monde, réellement, que au sein même des pays. Et c'est là où on a un problème, c'est-à-dire que on a un modèle social, en fait, mondial, qui n'existe pas. Alors, les gagnants et les perdants de la mondialisation, parce que c'est ça qui est intéressant. Hein. À votre avis, qu'est-ce que c'est ?
Ouais, c'est une bonne question.
Très bonne question.
Et ouais, mais donc voilà.
Les gagnants de la mondialisation, c'est les patrons du CAC 40, par exemple.
C'est l'élite mondialisée.
Eh ben, pas que.
Pas que.
Les plus grandes fortunes de, dans les pays concernés.
Les gouvernements, les États,
soyons sérieux. Donc, vous me parlez des 1% et 0,1% les plus riches.
Oui, oui.
Vous pensez que ça,
et ben,
pas que, en fait. C'est ça qui est intéressant dans cette étude. Il y a un triple enseignement qui s'en dérange. Tout d'abord, les 5% les plus pauvres n'ont pas réduit leur handicap. C'est-à-dire que ben, les plus pauvres restent pauvres dans leur pays. Hein, et voilà, puisque même si leur revenu est accru, il a fait moins vite que le revenu global moyen. C'est-à-dire que quelqu'un qui est par exemple en France au RSA...
Les inégalités ont continué à se creuser.
Voilà,
quelqu'un qui serait au RSA en France, est-ce qu'il serait riche au Bangladesh pour le coup?
Non, t'as pas compris.
J'ai pas compris, d'accord.
T'as pas compris. Okay. En fait, là, ce qu'on a premier enseignement, c'est que tu as les minima sociaux en France, d'accord?
Oui, bien sûr. Oui.
Ce qu'on va donner en minima social ou même en tant que smicard va être beaucoup moins important en termes de possibilité de pouvoir d'achat que celui qui a un revenu moyen en France qui est de 2225 euros.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a un déclassement par la pauvreté.
Voilà, sur 20 ans, il y a un déclassement.
Et encore, tu as de la chance parce qu'en France, tu as le RSA.
Oui, oui,
dans d'autres endroits, tu n'as rien du tout.
Donc, sauf que moi, j'ai une petite info de données quand même. J'ai une petite info de données. C'est que c'est à combien le RSA aujourd'hui pour une personne seule
450 euros, 500 euros.
Voilà, 500 euros.
Pour une personne.
Un prof en Russie, un prof de collège en Russie, il touche 400 euros. Hein.
Oui, mais donc là, on parle de différence. On parle de. Il y a l'inégalité donc absolue, bien sûr.
J'entends bien.
Mais là, on parle d'inégalité relative, c'est-à-dire au sein de chaque pays.
C'est ça.
Et c'est ça la question. C'est-à-dire que finalement, est-ce que la mondialisation parvient à corriger les inégalités dans les pays?
Voilà. Et ben non. Alors le deuxième enseignement qu'il y a dans cette histoire, c'est que les gagnants qui se divisent en fait en deux groupes très différents. D'abord ceux que vous avez parlé au premier abord, c'est-à-dire les 1% les plus riches de la planète, dont les revenus sont déjà très élevés, ont continué de croître fortement en 20 ans, soit plus de 65%. Ça explique la financiarisation de l'économie.
D'accord.
Hein? Mais ça, c'est un effet direct de la mondialisation.
Tout à fait.
Parce que finalement,
c'est-à-dire qu'on parle d'écart relatif, c'est-à-dire que, en fait, tu dis proportionnellement, leurs revenus n'ont pas tant augmenté que ça, mais par rapport aux revenus médians, aux revenus moyens. Mais en fait, leurs revenus sont tellement supérieurs à la classe moyenne qu'ils captent, en fait, 5% des plus riches captent 44% de la valeur des richesses produites dans le monde. C'est ça qui est hallucinant.
Et quand on voit certains pays comme les États-Unis, par exemple, oui, où l'élite, les 1% des plus riches, captent la richesse produite d'une année, la moitié de la richesse produite d'une année, donc c'est énorme.
C'est énorme.
Et c'est là où il y a un troisième enseignement. C'est en fait, il y a une classe moyenne qui s'est enrichie avec la mondialisation.
Ah,
une classe
au
moyenne.
Brésil.
Oui, mais attends, une classe moyenne.
Oh, j'ai cru pendant tout le temps que tu parlais du Brésil, en fait.
Eh ben non, parce qu'en fait, le deuxième groupe, c'est les personnes situées autour du revenu moyen, ce qu'on appelle le revenu médian, sont à 90% issus et donc qui ont eu leur salaire, leur pouvoir d'achat fortement augmenté en 20 ans.
D'accord.
Et ben ils sont issus des pays émergents d'Asie, surtout la Chine, l'Indonésie ou la Thaïlande, et à moins de 2 degrés l'Inde. C'est-à-dire en gros l'Asie, du fait de la mondialisation qu'elle a été actrice de ce concept-là, il y a l'émergence de toute une classe moyenne qui se fait.
Ouais.
Hein, voilà.
Oui, mais c'est parce que c'est des pays aussi qui profitent relativement de la mondialisation par rapport à leur masse de travailleurs.
Alors attends, mais selon les auteurs, et alors ça peut être contesté, mais c'est intéressant, en fait, le résultat le moins attendu, c'est que ceux qui sont issus des économies développées par les anciens pays communistes, du fait qu'ils n'ont pas été dans cette logique.
Les pays du Balkan, la Russie,
la Russie.
L'écart de majorité des membres de ce groupe sont donc ces fameuses classes moyennes au temps du communisme, sont les principaux perdants dans ce qu'on appelait l'ancien monde.
Ah, ça, c'est
et oui,
par contre,
ça explique pourquoi ça explique toutes les fractures sociales et nationalistes d'aujourd'hui. Ça explique aussi les mouvements migratoires par rapport à
mais
ça.
Mais ça, c'est une vraie question. Comment l'Europe de l'Est, finalement, n'a pas réussi sa reconversion, entre guillemets, c'est-à-dire passer d'un système brutal à un autre. Et en fin de compte, alors qu'on a présenté tout ça comme l'aune du libéralisme, ou 20 ans après, t'as toutes les... Alors que t'as certains pays, ça fonctionne très bien, la Pologne. Alors on dit que la Pologne avait un taux de croissance.
Donc ils ne tirent pas les fruits de la croissance.
Absolument. Parce qu'ils n'avaient pas les infrastructures pour s'adapter à l'économie de marché.
D'accord.
Par exemple, pendant des années, les produits russes n'ont jamais été en Europe.
Parce que derrière, tu avais des histoires de douane, tu avais des histoires d'enjeux stratégiques, géopolitiques, mais aussi la qualité des produits.
Oui, oui. Oui. Oui, c'est-à-dire que le fait de ne pas être au standard.
Au standard, norme NF.
Être intégré
NF,
dans le marché.
Absolument, norme NF, si tu n'as pas la norme NE, norme européenne, tes fruits, tes machins, ils ne passent pas.
C'est ça.
Et puis, il y a un truc, c'est que le coût social, quand même, de basculement a été très lourd. Ouais. Or, malgré tout.
Parce qu'il y a un autre enseignement, c'est qu'effectivement, au niveau des classes moyennes, mais de l'Union européenne, des pays fortement développés, en fait, c'est là où on voit qu'émerge un rétrécissement du pouvoir d'achat, ou une progression légère, un stagnement des revenus de la classe moyenne.
Donc dans les pays occidentaux.
Dans les pays occidentaux, donc Italie, Espagne, Allemagne, France, tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... le problème, alors ce qui se pose, c'est quoi comme implication politique ? Parce que c'est intéressant quand même, voilà. C'est que d'un côté, on a l'émergence d'une classe moyenne asiatique, hein, et un déclin relatif de la classe moyenne des pays riches, hein. Et puis d'un autre côté, on a le basculement de la domination économique de l'ancien monde, donc Europe et États-Unis, vers des pays riches, vers le nouveau monde, des pays émergents, essentiellement asiatiques. Point d'interrogation. Ça. On se pose vraiment la question. Il y a le déclin, effectivement, de la classe moyenne occidentale. Et, parallèlement à ça, cette chose-là démontre une chose, c'est qu'il y a une élite mondiale qui est largement détachée de son appartenance nationale, hein, qui peut, effectivement, de fait, parce qu'ils ont totalement intégré les modes de fonctionnement, modes de vie, hein, quand monsieur Bernard Arnault, hein, on pourrait en prendre son Falcon, c'est pas un hasard. Il est sur un marché mondial. Point. Tous les patrons, vous citiez les patrons du CAC 40, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est une menace pour la stabilité de la démocratie. Hein. Ça explique
l'élection de Trump.
Non, exactement. Ça peut évidemment alimenter le nationalisme économique et le nationalisme tout court. Et sachant que, malgré tout, l'inégalité dans le pays reste l'élément persistant pour mesurer cette inégalité, mais c'est ça les enjeux. Voilà.
Très bien.
En fait, c'est étonnant parce qu'au fond, on est en train de s'apercevoir que la mondialisation a favorisé effectivement une classe d'hyper riches. Elle a permis une classe moyenne, donc effectivement en Asie, un peu au Brésil, de sortir effectivement de la pauvreté, mais il reste toujours une masse de gens pauvres.
Ben oui.
Et du coup, en fait, les inégalités à l'intérieur des pays concernés ne se sont pas forcément réduites. Je veux dire, l'exemple de la Chine, par exemple, il y a, je sais pas, quelques milliardaires et au Brésil, on n'a pas tout. Enfin, je veux dire, il y a aussi une classe, les inégalités sont extrêmement fortes. Ouais. Donc du coup, et aux États-Unis, en plus. Dans les pays qui sont porteurs de la mondialisation, donc les pays occidentaux, la classe moyenne a plutôt tendance à stagner, alors que t'as des hyper riches, eux, qui s'enrichissent. Oui. Donc t'as un cocktail de fait explosif qui, dans les années à venir.
Très juste. Merci à tous les deux. On va s'écouter une petite chanson, ensuite on reprend la parole.
Que l'on impose les vraies grandes rivières, mais c'est la peau sur les peignants.
Eh oui, c'était un retour en arrière. C'est comme la mondialisation, on retourne en arrière. Mais c'était une chanson de 1930. Ça s'appelle « L'impôt sur les fainéants » de Montéus, chanté par Marty. Et donc, c'était une très belle chanson, bien militante finalement, même dans cette année-là. Pourtant, si mes souvenirs sont bons, c'est les Trente Glorieuses à cette époque-là, pour le coup. C'était, oui, avant, oui.
C'était bien
avant. Avant les Trente Glorieuses, pardon, c'est autant pour moi.
La proposition attaque la chronologie de monsieur
Gigante et les Trente Glorieuses.
C'est rien à voir, c'est autant pour moi.
Bon,
j'ai 0 sur 20 pour le discours, là.
C'était sympa, comme
voilà. Au piquet,
avec la bonne édane, pour le coup.
Oui, tout à fait.
Bon, on reprend cette émission, c'est Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Je suis avec Ludo et Christophe, mes deux chroniqueurs préférés. Claude à la technique.
Et bien sûr. Je vous exploite, en fait, c'est ça.
Voilà, je vous exploite, hein. Bénévoles et militants, c'est quand même, ça paye pas, hein, ça peut dire.
Toujours des profiteurs ou quoi.
Voilà. On va continuer cette émission sur, bien sûr, là, le problème de la dégressivité pour les cadres. Hein, pour,
bien sûr.
Dis-moi, hein.
Dégressivité bon, pour les cadres.
Voilà. Donc, effectivement, il y a donc, apparemment.
Là, on parle d'un projet de loi sur.
C'est pas un projet de loi, c'est la question de la négociation UNEDIC.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça.
Mais okay, effectivement, ça fait partie des propositions de M. Macron dans sa lettre de cadrage qu'il a envoyée.
Donc, les syndicats patronaux sont vent debout contre cette réforme. Voilà. Ben, voilà.
C'est très surprenant.
Très surprenant.
Alors,
le MEDEF se rebelle.
Alors, pas tout à fait. Enfin, presque, oui, on va dire que c'est un peu le MEDEF, mais c'est plutôt les syndicats de cadres. Parce que, je vais vous dire un truc. Parce que je cherchais des choses hein, comme ça sur l'UNEDIC, etc., etc. Et j'ai trouvé des articles qui vantaient donc la non-dégressivité et l'utilité des allocations chômage. Je les ai trouvés dans le Figaro. Dans la nouvelle entreprise.
Tu lis Figaro, toi? C'est nouveau.
Écoute, on trouve des informations.
Oui, c'est nous, voilà. Non,
tout à fait. Et une mûrie devient de droite.
Et donc, c'était génial. Non, mais non, c'était quand même génial de voir, effectivement, ces journaux prendre la défense des chômeurs. Mais vous me direz, évidemment, il y a chômeurs et chômeurs, toujours.
Ah.
Et donc, le chômeur qui est utile, quel est le chômeur qui est utile?
C'est,
celui qui bosse. Ah, non.
Oui. Mais c'est aussi le cadre.
Ouais, le cadre.
Qui, le cadre qui est une richesse pour la nation travailleuse et un potentiel de créateur d'entreprise. Et donc donc je vais presque vous lire le communiqué 13 parce que je vois pas le président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres, dénonce à propos de la dégressivité des allocations chômage exprimées par monsieur Macron et monsieur Édouard Philippe des propos de comptoir.
Ah, Jupiter s'est pris un café, d'accord.
Il parle même d'une proposition populiste.
C'était une bière.
Si même M. Macron est populiste, où va-t-on? Où va le monde? Pour venir. Hein. Et donc voilà, donc propos de comptoir, l'idée lancée par le gouvernement d'une dégressivité des allocations chômage pour les cadres. On ne peut pas diviser la France au coin du bar, a-t-il dit en s'enflammant un peu.
Oh ben moi j'en connais pour un pack de bière.
Estimant très malhonnête de désigner une catégorie contre les autres. Je suis d'accord. La stigmatisation des chômeurs, c'est un procédé qui est lamentable. C'est bien que vous en soyez aperçu à la CGC. On n'a pas toujours entendu les mêmes discours.
Ouais.
Le député, donc LR, je sais pas quoi, c'est LREM, hein, pour faire court, hein, La République En Marche, Aurélien Taché avait suggéré, donc, cet été, une diminution de l'indemnisation au bout de 6 mois. Bon, ça a été repris par Édouard Philippe, qui estimait que la dégressivité pouvait être envisagée pour ceux qui ont une très forte employabilité et des salaires très élevés. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'en fait, un des soucis de... Enfin, des soucis, n'exagérons rien, mais de l'indemnisation des chômeurs, c'est que c'est plafonné à un niveau très très haut.
Ouais.
Et du coup, par exemple, pour certains intermittents du spectacle, acteurs de renom, ils ont droit à des sacrés... Bon, c'est un cas extrême, évidemment.
Je crois que c'est 5250, c'est ça ?
Un truc comme ça. Mais en tout cas, en tout cas, évidemment, quand vous êtes super cadre et que vous vous retrouvez au chômage, alors,
c'est le drame.
Est-ce que ça attire, hein ? Voilà, c'est le drame. Et donc, il faut quand même maintenir un mode de vie. Ouais. Contrairement à la Belgique, qui est plus généreuse, en fait, en durée, beaucoup plus généreuse. Mais par contre, les indemnités sont plafonnées. Donc voilà, je ne me prononcerai pas sur le fait de les plafonner ou pas, ou de les déplafonner. Mais en tout cas, elle sera sur la table. Cette proposition donc d'instaurer la dégressivité sera sur la table des négociations qui donc débuteront le 9 novembre. C'est donc une proposition populiste, selon François Auméril, le président de la CFE-CGC, en soulignant que les cotisations des cadres représentent 42% des ressources du régime pour 15% des dépenses.
Ah oui,
C'est assez logique, c'est-à-dire que les gens qui travaillent, parce que ce que dit pas le monsieur là, c'est que c'est des chiffres impressionnants, mais en réalité, c'est ça la solidarité nationale. Ceux qui travaillent ne consomment pas de droits, et le chômage chez les cadres, il est tout réduit.
Et voilà.
Et oui. Donc, il faut préciser aussi qu'ils cotisent double pour leur retraite. J'exagère, mais qu'ils cotisent beaucoup mieux pour leur retraite. Et c'est d'où l'intérêt du calme. Et dit-il, parce qu'il prend un exemple, là, quand même, la défense du pauvre chômeur. Quand vous aurez 50 ans et que vous êtes victime d'un plan social, ce n'est pas si facile que ça de retrouver un emploi. Sans blague. Ce monsieur découvre le chômage des seniors. Voilà. Et tout ça, c'est pour relativiser d'une forte employabilité des cadres. Il va sans dire qu'on est absolument d'accord. Voilà, donc
si mes souvenirs sont bons, les non-cadres ils bénéficient de la dégressivité.
Pour le moment, non, parce que...
Pas encore, mais non, enfin, c'est dans, dans les tuyaux, là, pour le coup, non.
Mais non, mais justement, non. Bon, là, ça, propose des, ça provoque déjà... voilà. Selon lui, l'exécutif s'est totalement trompé de cible en facilitant les licenciements plutôt que des recrutements. C'est un syndicat de cadres qui vous le dit. Et il a en cela répondu à un désir dogmatique d'une certaine frange d'influence autour du gouvernement, donc les super énarques qui n'ont peut-être jamais connu le chômage. Et il y a autre chose.
Ah.
Ça, qui se trouve dans... un journal que je vous recommande, qui s'appelle L'Usine Nouvelle.
Oui.
Donc L'Usine Nouvelle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein?
Très bon journal. Hein.
Pourquoi la dégressivité des quatre plomberait l'économie française? La dégressivité des quatre plomberait l'économie française. Pourquoi? Et oui, parce que Monsieur Macron a déclaré qu'il voulait faire de la France une start-up nation. Or, la start-up nation, c'est fait d'entrepreneurs qui vont créer leur entreprise, leur start-up.
Ouais, dans les nouvelles technologies.
Voilà.
Et où donc la mercerie start-up, je veux bien, mais...
Et donc, où vont-ils trouver l'argent pour créer leur entreprise? Où vont-ils? Eh bien, c'est une blague de start-upers, bien entendu, qu'ils vont le trouver à l'UNEDIC, puisque...
C'est quoi cette histoire?
Bien entendu, une blague populaire parmi les start-upers, mais tout le monde le sait, Christophe. La première levée de fonds se fait à l'URSSAF, aux ACEDIC. On trouve en effet de nombreux créateurs qui, après deux ou trois années d'expérience professionnelle, négocient une rupture à l'amiable avec leur employeur. Et avec leur indemnité, ils peuvent, pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, lancer une entreprise, trouver leur modèle économique, puis voter le cas échéant et atteindre le rêve. Et on le sait très bien parce que finalement, il y a un dispositif qui permet, quand tu es au chômage, effectivement, de convertir tes indemnités chômage. Et bien entendu, pour les jeunes créateurs d'entreprises, donc cette boost Startupper Nation, les indemnités chômage sont très utiles pour réaliser leur indemnité professionnelle.
Oh,
et c'est un scandale d'envisager de spolier et de détruire la pépinière de nouveaux créateurs d'entreprises.
Bah oui, faut pas faire ça, faut pas.
Faut pas faire ça.
C'est terrible. Tu te rends compte, hein, c'est pauvre.
On est en train de mettre sur la paille.
Rendre pauvre ces pauvres riches, c'est pas possible.
Ouais. Hein. Oui, tout à fait.
Mais d'accord.
Non, mais c'est une réalité qui se modélise aussi au niveau des minima sociaux pour ces start-upers par le modèle SAS, qui est la société à action simplifiée, qui leur permet de toucher des prestations sociales tout en ayant en se payant des vacances au cas
d'échéance. Des vacances au Bahamas.
Voilà, mais financées par la boîte. Il y a une phase juridique, c'est très très sympathique.
Mais où est ça?
Mais t'inquiète pas, Christophe, tous ces travailleurs seront bientôt remplacés par des machines. Alors justement, en termes d'intelligence artificielle, quelles sont les 12 mesures apparemment qui sont sur la table en ce moment?
Alors on va terminer sur une petite note un peu sérieuse, puisqu'il y a eu une grosse émission hier sur France 2, très intéressante d'ailleurs, hein, sur les fameux GAFA. GAFA, c'est Google, Apple... Facebook
et compagnie, ouais.
Et Amazon et compagnie, ces grosses boîtes de communication sur la plateforme numérique qui a été la stratégie de fer de lance des États-Unis, notamment. Bon, en gros, l'Asie produit, nous on commercialise et on distribue. Alors, je résume, mais c'est un peu ça. Et on fait en plus le lien social pour déterminer les besoins et créer les marchés et tout. Sauf que voilà, évidemment, tout ça est fait par des machines, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et ça apporte plein d'opportunités, hein, en termes de productivité. Sauf que, ça aussi son lot de menaces et de dangers, hein. Alors, je rappelle un petit truc, hein, c'est l'affaire Snowden. Snowden, c'est qui? C'est un gars de la NSA. Qui, donc, un agent secret, hein.
Un donneur d'alerte, en fait.
Non. C'est à la base, c'est un agent secret, ce qu'on appelle un cryptologue. C'est-à-dire quelqu'un qui est un analyste, hein, stratégique. Hein, qui analyse toutes les communications. Et un jour, en tant que donneur d'alerte, il fait, oui, mais moi, j'ai un truc à vous dire. La NSA, grâce à Google, Facebook, etc., elle écoute tout le monde. Et en fait, tout ce que vous écrivez sur dites sur le net, ça reste éternellement. Donc vous êtes tous fliqués. Et donc si un jour vous voulez faire une carrière politique ou tu et tout, on pourra vous ressortir dans 20 ans le premier pet que vous avez foutu sur votre photo Facebook en disant « c'est un drogué, un camé ». Voilà, parce qu'il n'y a jamais d'oubli sur Internet. Alors ça pose un petit problème, hein, pour la démocratie et puis les gens. Donc il y a un comité d'experts qui, par rapport à ce lot de menaces et de dangers, hein, parce que là on dit sans rigolant, mais si un jour on passe sur une dictature, on peut aussi utiliser pour vous interroger, mais sous le biais de la torture, ouais, par exemple.
Comme en Chine, en fait.
Comme en Chine. Non, mais pas forcément. Oui, pas forcément. Il y a
Birmanie aussi, pas mal. Aussi.
Oui, voilà. Donc ces 12 mesures qui visent à protéger l'humanité de différentes menaces qui sont générées par l'intelligence artificielle. Hein. Donc il y a un comité qui s'est réuni aux États-Unis qui voudra faire appliquer ces normes, et je pense qu'on y reviendra un jour parce que c'est quand même assez important. D'abord, un, c'est le droit à la transparence, c'est-à-dire que tous les individus qui doivent avoir le droit de connaître les fondements qui est prise par une intelligence artificielle. Voilà, c'est une intelligence artificielle qui a pris cette décision. Il a le droit à la détermination humaine, hein. C'est du bah non, moi je veux pas que ça soit un ordinateur qui me sorte un acte administratif, je veux que derrière il y a une personne, un être humain. L'obligation d'identification, toutes les institutions qui sont en charge d'un système d'intelligence artificielle, eh ben elles doivent être connues publiquement. L'obligation de justice, hein, puisque les institutions doivent s'assurer que les systèmes d'intelligence artificielle ne reflètent pas des préjugés injustes de leurs créateurs, ne prêtent pas des décisions discriminatoires. Hein. Qu'est-ce qui te dit que les radars qu'on contrôle par intelligence artificielle, un jour on va pas te foutre un algorithme, un mec qui veut rigoler, qui va te faire toutes les lagunas, deux fois plus d'amende. Allez hop, on les flashera pas à 80, on va les flasher à 70, c'est un bug, on va le trouver, hein, par exemple. C'est assez délirant, on est en plein de science-fiction. Il y a l'obligation de la précision, de fiabilité, de validité, l'obligation de qualité des données, puis l'obligation de sécurité publique, hein, évidemment, de toute façon. Et il y a trois choses qui, là, vont quand même faire source de débat, parce que les Chinois ne sont pas tout à fait d'accord. Ben, c'est l'interdiction du profilage secret, hein, puisque les institutions ne doivent en aucun cas mettre en place ou maintenir un système de profilage secret. Alors ça m'étonnerait, parce que quand vous cliquez, en fait, sur Internet, sur J'accepte, tout ce que vous dites et tout ce que vous faites, il est enregistré, vous n'avez plus le droit à rien dire. Et ça, rien ne vous appartient. Voilà. Hein, c'est Big Brother, hein, clairement.
Mais si je peux me permettre une question, enfin, il m'a toujours semblé qu'il y avait un problème de taille des données en fait à traiter, parce que finalement, comme on est tous bientôt tous connectés, ça fait un nombre de connexions, de surveillance.
Des milliards d'informations.
Il y a des robots pour que
c'est ouais, tout ça. Mais justement, il y a des robots par rapport à ça, mais grâce à un robot, une intelligence artificielle, tu peux un jour taper ton nom et avoir tout, et puis quelqu'un qui voilà t'espionne
et ton adresse IP en fait.
Et voilà, etc. Et puis tout, hein, il y a aucun souci là-dessus. Il y a l'interdiction du scoring unitaire. En fait, aucun gouvernement ne doit mettre en place ou maintenir un système de scoring de ses citoyens ou de ses résidents basé sur l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est quoi? C'est j'ai des données, j'ai tes habitudes alimentaires, tes habitudes de loisirs, tout ça, et à partir de ça je vais créer des modèles de discours pour te convaincre.
D'accord.
Ça a été utilisé par Obama.
Okay.
Et tout.
Oui, pour
voilà.
Oui.
Et donc l'obligation de suppression. Donc ça, c'est très important. Ça sera un grand sujet qu'on retraitera un autre jour.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup, Christophe. Ludo, t'avais juste une annonce. Alors...
Oui, il y a un livre qui vient de paraître qui s'appelle Quand des chômeurs se mobilisent, de Valérie Cohen et Xavier Duneza, qui ont passé quelques temps dans des associations de chômeurs, et qu'on pourra peut-être interroger le mois prochain.
Le mois prochain, absolument. Merci. Donc cette émission se termine. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à dans un mois pour ce qui nous concerne, nous, cette équipe d'aujourd'hui. Bisous aux filles et poignées de mon garçon. Ciao.
Bonsoir.